Chers frères et sœurs, soyez les bienvenus pour ce temps de culte. Notre esprit est tout marqué par ce changement d'année, par ce désir de laisser derrière nous les choses affreuses que nous avons vécues et de pouvoir nous orienter vers ce qu'il y a de plus beau et de plus juste à désirer. Et précisément, c'est cela que Dieu nous offre en nous donnant la grâce et la paix au cœur même de notre existence. Alors chantons notre reconnaissance par le cantique « Tout pénétré de ta grandeur immense ». C'est ce cantique qui ponctuera notre liturgie. Pour le moment, chantons la première strophe. Frères et sœurs, en ce début d'année, en cette reprise de l'école, prions avec les mots de Jean Calvin, ces mots qu'il avait offerts aux écoliers. Seigneur, toi qui es la source de toute sagesse et de toute science, puisqu'il te plaît de me donner pendant ma jeunesse l'instruction qui me sera utile pour vivre saintement et honnêtement, veuille en même temps éclairer mon intelligence pour que je comprenne l'enseignement qui me sera donné. Et puisque tu promets d'éclairer par ta sagesse et par ta connaissance les petits et les humbles au cœur droit, tandis que tu rejettes les orgueilleux pour qu'ils se perdent dans la vanité de leur raisonnement, je te demande, ô mon Dieu, de créer en moi cette véritable humanité qui me rendra docile et obéissant à toi avant toute chose, mais aussi à ceux que tu as établis pour m'instruire. Veuille en même temps disposer mon cœur afin qu'ayant renoncé à tous ces mauvais désirs, il te cherche ardemment et que mon seul but soit toi, ô mon Dieu. Que ma perspective soit de me préparer dès maintenant à te servir dans la vocation où il te plaira de m'appeler. Amen. Et poursuivons notre louange par le chant du psaume 96. Au psaume 96, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Prenons maintenant le temps d'une prière de repentance, toujours dans l'esprit du réformateur Jean Calvin. Éternel notre Dieu, nous reconnaissons que nous ne sommes pas à la hauteur de l'espérance que tu formes pour nous. Cela ne date pas d'aujourd'hui, nous ne cessons de manquer nos rendez-vous avec notre vocation profonde. Ramenons notre vie à n'être finalement que l'ombre d'elle-même. Mais nous avons une vive douleur de cet état de fait. Nous le regrettons. Et nous faisons appel à ta grâce pour nous sauver de nos faux pas. Veuille donc avoir pitié de nous, Dieu très bon qui aime la vie, en nous permettant de renouveler notre existence. Fais-le pour l'amour de Jésus-Christ qui a sauvé notre vie de l'absurde. Accorde-nous aussi de pouvoir renouer les liens brisés avec nos frères et sœurs, afin que nous ayons par eux une meilleure conscience de ce que tu nous permets de vivre et que nous sachions mieux rendre le monde plus juste, plus agréable, par Jésus-Christ, celui qui avait les paroles de vérité et de liberté. Amen. Chantons maintenant la sixième strophe du cantique « Tout pénétré de ta grandeur immense ». Mon frère, ma sœur, quand ton cœur te condamne, souviens-toi que Dieu est plus grand que ton cœur. Et quand ton intelligence te fait dérailler, souviens-toi que Dieu est plus grand que ton intelligence. Et écoutons la parole de l'apôtre. Il dit qu'elle est certainement digne de confiance, cette parole, et qu'elle mérite d'être pleinement accueillie par tous, cette parole qui dit que le Christ Jésus est venu dans le monde pour accueillir les pécheurs dont je suis le premier. À chacun de nous, cette parole redit explicitement le pardon de Dieu, cet amour inconditionnel qui nous ouvre à une vie libre et donc responsable. Chantons à Dieu notre reconnaissance. Écoutons maintenant quelle est la volonté de Dieu à notre égard, selon les paroles de Jésus qui sont disponibles dans l'Évangile selon Marc. Le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là. Alors, frères et sœurs, inscrivons ces deux commandements au cœur même de notre existence, au plus secret de notre être. Avec le chant du cantique 608, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Thank you. Avant de lire les versets que j'ai retenus pour notre méditation, prenons encore le temps de prier pour nous ouvrir à Dieu. Éternel notre Dieu, dispose-nous à recevoir maintenant ta parole. Et pour cela, rends-nous attentifs, pour que nous puissions entendre ton évangile au sein des versets que nous allons lire maintenant. Amen. C'est dans l'évangile selon Marc, le plus ancien des évangiles que nous ayons dans la Bible, que j'ai choisi quelques versets à la fois pour penser notre condition de chrétien, notre absence de la vie d'église dans les temples, notre absence de communauté physique a tendance à nous distancier un peu du cœur même de la vie chrétienne. Et il est bon, je pense, de retrouver l'essence même de la vie chrétienne, et ces versets nous disent cela. Et puis je voulais aussi quelques versets qui nous aident à nous lancer dans cette nouvelle année, à nous projeter, à nous mettre en route. Et ces versets, je les trouve donc au début de l'évangile de Marc. Vous comprenez que ce sont des versets qui inaugurent finalement l'évangile. Au premier chapitre, ce sont les versets 16 à 20. En passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient leur filet dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet, ils le suivirent. En allant un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui était aussi dans une barque et qui réparait les filets. Aussitôt, il les appela. Ils laissèrent leur père, Zébédée, dans la barque avec ceux qui étaient employés, et ils le suivirent. Frères et sœurs, chantons maintenant la 8e strophe du cantique « Tout pénétré de ta grandeur immense ». Chers frères et sœurs, j'aimerais commencer cette prédication par une évidence, par un truisme, une banalité. Cette banalité, c'est qu'être chrétien, c'est être disciple du Christ. Et cela est une évidence, vous en convenez, et c'est tellement évident que, bien souvent, nous n'y faisons plus vraiment attention. Nous ne prenons plus vraiment la peine de penser ce que cela signifie. Nous ne prenons plus vraiment la mesure de cette expression, ni de ce que cela implique. Et c'est surtout là-dessus que j'aimerais vous emmener dans le cadre de cette réflexion sur ces versets de l'évangile de Marc que nous avons entendus, ce que cela implique, être disciple du Christ. Et c'est tout l'intérêt de ce passage biblique qui présente les premiers disciples. C'est le temps des commencements. C'est l'occasion de nous faire prendre conscience de ce qu'est être disciple et de ce que cela implique pour nous. Alors, le premier point que je relève, c'est que le fait d'être chrétien, le fait d'être disciple, c'est une réponse à un appel qui nous a été lancé. Ni Simon, ni André, ni Jean, ni Jacques n'ont l'idée de devenir disciples du Christ. Ils ne se sont pas levés un matin en se disant que ce serait le bon moment finalement pour devenir disciples du Christ. D'ailleurs, à ce moment précis de l'histoire, aucun de ces quatre-là n'a encore entendu parler de Jésus. Nous sommes au tout début de l'Évangile et Jésus n'a pas encore acquis la notoriété qui sera la sienne quelques chapitres plus loin. Et c'est l'appel de Jésus qui a fait de ces quatre personnages des disciples, au sens où ils vont suivre Jésus. Et effectivement, ce que dira le verbe grec « akolouteo », c'est que ces quatre personnages sont des acolytes, des disciples qui suivent Jésus. Cela a une importance pour notre vie chrétienne beaucoup plus grande que ce que l'on peut imaginer. Car cela signifie que nous ne sommes jamais chrétiens tout seuls, de manière isolée. Nous ne sommes pas auto-fondés, pour le dire d'une manière un peu plus technique. Nous sommes toujours au bénéfice d'une parole qui nous a été adressée personnellement. Et c'est ce que dira d'ailleurs l'apôtre Paul, notre foi vient de ce que nous avons entendu. Et ce que nous entendons, c'est un appel. Ce n'est pas une injonction, c'est un appel. Une sorte de parole qui caresse notre existence et qui suscite le désir de répondre favorablement à cet appel. Nous sommes toujours au bénéfice d'une parole qui nous a sorti d'une forme d'anonymat et d'une forme d'inertie également. Et quand on y songe, être chrétien, c'est d'abord devenir chrétien. Nous ne sommes pas chrétiens par notre naissance, nous ne sommes pas chrétiens parce que cela serait dans l'ADN de notre famille, même si nous avons des ancêtres extrêmement glorieux, même si nous avons quelques pasteurs dans notre lignée. Nous devenons chrétiens parce qu'une parole nous a interpellés, qu'elle nous a saisis et que nous y avons répondu personnellement. L'appel du Christ est ce qui fait de nous un chrétien. Sachant que l'appel du Christ de nos jours, évidemment, ne résonne pas de la même manière qu'il a pu résonner pour ces quatre personnages. Ce n'est pas Jésus qui serait là en chair et en os et qui, dans le creux de notre oreille, nous appellerait par notre prénom. Ce n'est pas Jésus qui se tient au milieu de notre assemblée, ce n'est pas Jésus qui marche sur notre chemin en chair et en os comme il le faisait au temps de Pierre, Jacques, Jean, Simon, André, sont des personnages qui ont pu rencontrer Jésus. Mais le Christ déborde largement la figure de Jésus. 2000 ans après le ministère terrestre en Jésus de Nazareth, la parole du Christ retentit de bien des manières différentes. La parole du Christ retentit dans la bouche des parents qui nous font entendre l'Évangile, cet Évangile qui résonne dans la Bible. La parole du Christ retentit dans la bouche du prédicateur. Du moins, c'est ce que nous nous efforçons de rendre disponible. Vous donner l'occasion d'entendre une parole du Christ qui vous rejoigne. La parole du Christ retentit aussi dans notre tête. Lorsque nous nous penchons avec attention sur quelques textes bibliques et que nous prenons le temps de nous y intéresser, que nous prenons le temps de les méditer. Et peut-être à la manière de Victor Hugo qui fut pris d'une sorte de frénésie en consultant le vieux livre tel que cela nous est rapporté dans le poème « Aux feuillantines ». Nous montions pour jouer au grenier du couvent et là, tout en jouant, nous regardions souvent sur le haut d'une armoire un livre inaccessible. Nous grimpâmes un jour jusqu'à ce livre noir. Je ne sais pas comment nous fîmes pour l'avoir, mais je me souviens bien que c'était une Bible. Ce vieux livre sentait une odeur d'encensoir. Nous allâmes ravis dans un coin nous asseoir, des estampes partout. Quel bonheur, quel délire! Nous l'ouvrîmes alors tout grand sur nos genoux, et dès le premier mot, il nous parut si doux qu'oubliant de jouer, nous nous mîmes à lire. Nous l'ûmes tous les trois ainsi tout le matin, Joseph, Ruth et Bose, le bon samaritain, et toujours plus charmé, le soir, nous le relûmes. Nous sentons dans ces mots du poète l'appel du large, l'appel au voyage infini qui dépasse les fatigues, qui dépasse les lassitudes, les angoisses. C'est un appel qui nous ressuscite, et qui nous arrache à la torpeur. La parole du Christ peut également retentir de la part d'un parfait inconnu, comme c'est d'ailleurs le cas pour les disciples qui entendent un appel de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas et qui sont néanmoins saisis. Non seulement ils se sentent concernés par cette parole qui tranche avec tout ce qu'ils avaient entendu jusque-là, mais ils répondent de leur personne en disant oui de tout leur être. Toutes ces paroles ont en commun d'être prononcées dans des conversations qui délaissent le terrain des formules convenues, des discussions sur la pluie et le beau temps. Oui, Il a givré cette semaine. Oui, il y avait néanmoins du ciel bleu. Oui, le temps est ce qu'il est, c'est l'hiver, les jours rallongent. Il y a dans toutes ces paroles christiques un élément commun. C'est qu'elles nous font aller vers de nouvelles rives. Ce sont des paroles qui accostent sur des rives vertueuses, les rives vertueuses de ce qui compte vraiment, de ce qui fait sens, de ce qui oriente notre vie, d'une manière qui, jusque-là, n'avait pas encore été véritablement accessible pour nous. L'appel du Christ retentit dans des questions qui sont aussi celles que nous trouvons dans les premières pages de la Bible. Ces questions qui nous aident à faire le point sur notre vie, des questions qui nous permettent de pouvoir repérer un peu notre topographie personnelle pour justement pouvoir mieux nous orienter, retrouver les dynamiques qui pourraient donner un sens intéressant à notre existence. Ces questions sont semblables à la question que l'Éternel adresse à Adam, par exemple, dans le livre de la Genèse. Il lui dit « Adam, où es-tu ? Où en es-tu ? Où en es-tu sur ton chemin d'humanité ? Dans quelle direction te rends-tu pour progresser un peu plus, pour apprendre ton métier d'homme ? » Et on pourrait se dire « Adam, que fais-tu pendant ce temps de confinement, pendant ce temps en sous-régime, pour te rendre vers l'arbre où se trouve le fruit de la vie éternelle ?» Et puis, un peu plus tard, dans le livre de la Genèse, il y a une autre parole qui, cette fois, s'adresse au fils, Caïn, et nous la connaissons, cette parole est douloureuse, elle est tragique. Caïn, qu'as-tu fait de ton frère ? C'est la question qui ouvre le champ de la fraternité. C'est la question qui nous rend responsables. La question qui nous appelle à répondre de nos actes, de nos paroles, ainsi que de nos absences. Toutes ces questions sont des appels à faire quelque chose de notre vie, à ne pas nous laisser aller. Ce sont autant de paroles qui nous incitent à composer l'histoire au lieu d'en pâtir. Ce sont des appels à agir, ce sont des appels à entreprendre. Car si nous ne faisons rien, comment les choses qui ne vont pas pourraient-elles s'arranger ? Ces paroles sont des paroles qui nous bouleversent. C'est peut-être la raison pour laquelle, d'ailleurs, bien souvent, nous essayons de résister. Bien souvent, nous essayons d'être imperméables, hermétiques, à ces paroles qui, en fait, nous engagent au plus profond de notre être. Oui, elles nous bouleversent parce qu'elles bouleversent nos schémas, elles bouleversent nos agendas, elles bouleversent nos priorités, elles bouleversent nos relations, elles bouleversent nos hiérarchies, elles bouleversent notre vie tout entière. Car ce sont des paroles qui nous font confiance. Et c'est tellement rare, une parole qui nous fait confiance. Ce sont des paroles qui traduisent un regard particulièrement positif. Ce sont des paroles qui traduisent un regard d'amour véritable. Et cela ne peut que nous bouleverser de fond en comble. Voilà pour le premier aspect de cet appel. Et tout bien considéré, ce que nous commençons à comprendre de cet appel, de ces paroles, c'est que cette parole qui s'adresse à nous personnellement, c'est ce qu'en christianisme, nous appelons la grâce. Une parole qui nous est offerte personnellement et qui ouvre notre vie sur des dimensions que nous n'avions pas encore découvertes et vers lesquelles nous pouvons désormais avoir envie de nous rendre. Une parole qui ouvre notre univers individuel sur la dimension universelle, sur l'humanité que les hommes appelés par Jésus vont maintenant rejoindre, comme dans une sorte de procession universelle semblable à celle qui ouvre le livre du prophète Ésaïe, lorsque toutes les nations affluent vers cette Jérusalem mythique, vers la montagne de l'Éternel d'où sort la parole qui appelle inlassablement à une vie qui s'élève justement. Non pas géographiquement, non pas topographiquement, mais en termes de qualité. Cet appel qui nous est fait signifie qu'on nous fait confiance, puisqu'on nous juge dignes de répondre à cet appel. Nous sommes donc dignes de confiance, et cela signifie que nous faisons partie, nous aussi, de l'humanité à laquelle Dieu déclare que cette place qu'il a indiquée par le baptême nous est effectivement offerte. Et cela ne peut pas nous laisser indifférents. Pour le dire avec le théologien Dietrich Bonhoeffer, c'est une grâce qui coûte. Cette grâce coûte car, inévitablement, elle nous coûte. Comme elle a coûté aux premiers disciples qui ont laissé leur filet, qui ont laissé leur père Zébédée. C'est une grâce qui coûte parce que cet appel provoque chez nous une réaction, une réponse en forme d'adhésion qui nous engage et qui est exigeante. Elle exige de nous des décisions, des abandons, du tri et une obéissance. Peut-être est-ce là d'ailleurs le plus important, et Dietrich Bonhoeffer insiste sur ce point. Cet appel, cette parole, exige de nous une obéissance. C'est une grâce qui coûte, car elle est une prise de risque personnelle. C'est une grâce qui nous arrache à la tranquillité, qui pouvait être bien confortable, bien apaisante, qui pouvait susciter une forme de quiétisme bien gentil, mais qui ne correspondait pas à notre vocation profonde, à cet appel venant du Christ, à cette intranquillité qui est la seule assurance que nous avons. Oui, on pourrait dire que la promesse de Dieu, l'assurance que Dieu nous fait, c'est l'intranquillité. Oh, soyez sûrs que ça n'ira pas de soi. C'est cette intranquillité qui est la seule assurance que nous puissions avoir au bout du compte, avec cette promesse que notre vie n'aura plus rien de commun avec ce qu'elle était, désormais. Christ vit en nous, et l'exigence infinie de l'amour nous anime à sa suite. Le souci de l'autre devient notre préoccupation. Le désir d'instaurer une fraternité active nous taraude jour et nuit. La possibilité de la paix nous attire, nous démange inlassablement. La grâce qu'est cet appel du Christ nous coûte, en ce sens qu'il nous implique, qu'il requiert notre énergie, notre intelligence, notre force, notre âme, l'intégralité de notre être. Tout cet amour dont l'évangéliste Marc rendra compte quand Jésus fera le sommaire de la loi, celui que nous avons entendu tout à l'heure, au moment de l'expression de la volonté de Dieu. Simon et André laissent leur filet de pêche. Cela signifie qu'ils ne peuvent plus se cacher derrière la technique, derrière les artifices. Ils s'exposent, ils prennent des risques, ils se mettent en danger car ils s'exposent personnellement. Ils vont devoir s'impliquer personnellement désormais. S'ils communiquent, c'est qu'ils auront quelque chose à dire, car ils ne pourront plus se cacher derrière des outils sophistiqués de design ou des éléments de langage de bois. S'ils soignent, ils se pencheront vers le malade dans une attitude clinique, car ils ne pourront plus se cacher derrière des batteries d'analyse et d'examens exécutées par des machines hors de prix. S'ils prêchent, ils sortiront leurs tripes, car ils ne pourront pas se cacher derrière une exégèse historique et critique, aussi soignée soit-elle. S'ils bâtissent, ils embrasseront la nature du regard, puis ils plongeront leurs mains dans la matière et leurs yeux dans ceux de leurs contemporains, car ils ne pourront pas se cacher derrière un programme immobilier standardisé. Jacques et Jean laissent leur père Zébédée. Cela signifie qu'ils ne peuvent plus se cacher derrière leur père, derrière leurs aînés, aussi prestigieux soient-ils. Ils vont devoir s'impliquer personnellement, désormais. S'ils décident de mettre au monde des enfants, ils inventeront la manière d'être les moins mauvais parents possibles. S'ils décident de faire la guerre, Ils élaboreront une stratégie militaire, car ils ne pourront pas se cacher derrière les campagnes napoléoniennes. S'ils décident de proposer une éducation religieuse aux plus jeunes, ils imagineront une pédagogie catéchétique, car ils ne pourront pas se cacher derrière le catéchisme de Martin Luther ou de Jean Calvin. L'appel du Christ provoque une rupture radicale par rapport à ce qui est établi, par rapport à ce qui a été programmé, par rapport à ce qui a été inscrit dans la loi, dans l'usage, dans la tradition. Et cela coûte à l'homme de se mettre à suivre Jésus, d'être son acolyte. Cela coûte le prix de sa vie, car c'est un engagement total. C'est un engagement total qui est requis dans le fait d'être disciple du Christ. Il faut que nous ayons conscience de cela. Voilà ce qu'implique être chrétien, être disciple du Christ. Vous voyez, c'est une évidence, mais finalement, cela ne va pas de soi, cela n'est pas aussi simple que cela en avait l'air au départ. Ce ne peut pas être simplement une adhésion de principe, un accord de façade. Être disciple du Christ, c'est un oui qui nous engage pleinement dans une vie nouvelle et qui nous change, qui change notre logique, qui change notre rapport aux autres. Et vous voyez, je crois qu'on ne peut pas dire que nous puissions nous considérer comme croyants et non pratiquants. Suivre le Christ, c'est adopter son regard sur la vie, c'est adopter sa logique du don qui s'oppose à la logique du donnant-donnant ou à la logique de la revanche, à la logique de la vendetta. Suivre le Christ, c'est renoncer aux privilèges du monde et c'est se mettre au service de l'humanité. Partir à la pêche aux hommes. Oui, partir à la pêche aux hommes en déployant sa propre manière d'être, sans se cacher derrière la technique, sans se cacher derrière les hauts faits de ceux qui nous ont précédés. Les camisards ont fait peut-être un travail exceptionnel, mais cela ne dit rien de ce que nous devons faire aujourd'hui. Nous devons faire valoir nos propres talents en étant libres à l'égard des schémas, libres à l'égard des stéréotypes, quand ces usages nous empêchent d'aimer vraiment, lorsqu'ils nous tiennent à distance de nos frères et de nos sœurs en Christ Jésus, lorsqu'ils nous retiennent de vivre une véritable fraternité avec tous ceux qui sont également au bénéfice de l'appel du Christ. Dans ce passage biblique, les personnes que le Christ appelle ne répondent pas par une confession de foi. C'est étonnant. On aimerait que les premiers disciples soient les gardiens d'une foi véritablement orthodoxe. Mais ce n'est pas par une confession de foi que les premiers disciples, qui sont les archétypes, presque des modèles, répondent. Ces personnes répondent par une obéissance à l'ordre de suivre le Christ. Ces personnes répondent par une mise en route de leur existence. Elles répondent par une exposition de leur personne, par une prise de risque, en allant derrière le Christ et en laissant derrière elles leurs assurances, leurs garanties, leur confort, leur certitude. Elles sont là, les mains nues, les mains vides, mais avec tout leur savoir-être. Être disciple du Christ n'est pas pour autant une sorte de pari sur l'avenir. C'est l'accord de tout notre être avec l'Évangile au cœur du monde. Alors, si être croyant implique que nous soyons aussi pratiquants, ayons bien conscience que notre pratique de chrétien ne s'exercera pas simplement dans un lieu de culte. Et c'est heureux quand un lieu de culte est fermé. Cela signifie que nous avons une sorte d'ascèse intramondaine. Cette expression de Max Weber pour dire que notre vocation se joue au cœur du monde. C'est exactement l'intuition qu'avait le réformateur Martin Luther lorsqu'il associait vocation et travail. Max Weber constatait que les réformateurs avaient modifié les vœux monastiques en les déplaçant justement au cœur même du monde, le vœu de célibat étant remplacé par cette vocation à avoir peut-être une famille qui n'est pas simplement une famille biologique, mais une famille élargie, élargie à celles et ceux qui sont sur notre route, dont nous croisons la route et qui, avec nous, peuvent faire alliance. Il y a ces vœux de pauvreté qui deviennent en fait les vœux d'un travail qui s'exerce au cœur même de la cité, manière d'accomplir notre vocation personnelle, et ainsi de suite. Être chrétien, être disciple du Christ, c'est dire oui. Oui à cette promesse d'une vie enthousiaste, là où nous sommes, et surtout, là où nous pouvons nous rendre. Et être chrétien, c'est tirer toutes les conséquences de cet appel qui nous est lancé, et devenir responsable, c'est-à-dire répondre positivement, en inventant notre propre réponse. Amen. Chers frères et sœurs, les informations à partager ne changent pas beaucoup des semaines précédentes. Nous sommes toujours dans ce moment de confinement ecclésiastique, chacun étant un peu comme reclus chez soi, mais pas isolé, mais pas abandonné à lui-même. À travers ces cultes que nous faisons par visioconférence et qui sont disponibles pendant tout le reste de la semaine sur Internet, nous maintenons ce lien spirituel. Bien évidemment, les pasteurs de notre Église sont à votre disposition. Vous pouvez les contacter soit par email, soit par téléphone, et ils pourront bien évidemment vous rendre visite en préservant évidemment toutes les règles sanitaires qui s'imposent. Notre conseil paroissial, notre conseil presbytéral, va se réunir la semaine prochaine pour envisager la possibilité ou non de recommencer les activités avec une présence physique des uns et des autres. Nos temples sont prêts, à vrai dire, pour vous accueillir, comme ils l'avaient été pour Noël. Mais nous avons à cœur de pouvoir préserver au mieux votre santé, votre sécurité, et c'est la raison pour laquelle nous attendons d'avoir quelques éléments sur l'évolution de cette pandémie pour prendre les décisions qui seront les plus justes et surtout qui seront préférables par rapport à l'état actuel de la santé dans notre agglomération. Donc toutes les informations seront disponibles auprès de notre secrétariat, par exemple, et puis évidemment sur notre site internet. N'oubliez pas que cette nouvelle année qui commence est aussi une nouvelle année avec des projets qui sont toujours en cours, qui sont aussi en préparation, aussi bien sur le plan matériel. On peut penser à la rénovation de ce temple de Maglone, la dernière tranche, l'intérieur, qui nécessite de nombreux moyens financiers. Et puis, au-dessus de cet abat-voix, prochainement, nous le souhaitons le plus rapidement possible, un nouvel orgue qui permettra de donner à ce lieu toute l'ampleur musicale qui lui est due. Et pour cela aussi, nous avons besoin de votre soutien, de votre appui financier. Et puis, nous avons nos charges dans les différents temples, évidemment les salaires des pasteurs. Toutes ces charges continuent à nous être imputées et c'est notre responsabilité aussi de pouvoir soutenir quelques paroisses dans notre région qui n'ont peut-être pas les mêmes capacités financières que nous. Alors, d'ores et déjà, n'hésitez pas à faire une offrande. Vous pouvez bien sûr envoyer des chèques au secrétariat. Vous pouvez aussi, par Internet, directement faire des virements. Et tous ces dons que vous faites, quel que soit leur montant, est vraiment ce qui nous est nécessaire pour mener à bien nos missions. Notre mission, c'est aussi de nous soutenir les uns les autres, qui par des gestes d'entraide, qui par de l'affection, qui par la prière. Et notre prière d'intercession aujourd'hui est aussi une manière d'exprimer notre fraternité et notre solidarité largement au-delà de notre Église, largement au-delà de nos intérêts chrétiens, aussi loin que notre foi nous donne de découvrir un frère, une sœur. C'est donc une perspective universelle que je vous invite à adopter dans ce temps de prière. Seigneur Dieu, il ne faudrait pas que notre prière d'intercession soit une manière de rester en retrait, en te laissant le soin de faire tout le travail. Nous ne voulons pas avoir une image de la grâce qui serait une grâce tout-puissante, qui ferait tout, toute seule, nous laissant juste la responsabilité de savourer les fruits de ton œuvre. Donne-nous le courage, là où nous vivons chaque jour, de prendre position au nom de notre foi et de ne pas mettre sous le boisseau notre attachement au Christ. Donne-nous de répondre « Me voici » à l'appel christique que nous recevons jour après jour, quelles que soient les modalités de cet appel. Même si cela doit nous amener ironie ou rejet, donne-nous le courage d'ouvrir nos yeux sur les injustices. Ces injustices qui viennent de l'argent, du pouvoir ou peut-être de la lenteur administrative. Et donne-nous le courage d'apporter notre énergie, notre intelligence, notre créativité à la résolution avec nos moyens de tous ces problèmes que nous rencontrons. Et en partageant au mieux, au nom de notre foi, cette perspective d'espérance que suscite cette grâce dont nous bénéficions toutes et tous, même si cela doit nous amener à la perte de notre tranquillité. Donne-nous le courage de participer activement à notre communauté paroissiale, même de façon virtuelle, en esprit, par cette communion des saints que tu favorises, afin que cette communauté devienne le lieu où notre vie, avec ses conflits, avec ses recherches, avec ses élans, avec ses hésitations, avec ses inquiétudes, se trouve éclairé par ta grâce. Ne nous laisse pas au repos, définitivement pas. Saisis-nous, appelle-nous, attire-nous, Seigneur. Tant que notre foi n'imprime pas son exigence sur l'éventail de toute notre vie, insiste, réveille-nous, relève-nous, ressuscite-nous. Nous t'en prions, aide-nous à être des croyants. Aide-nous à nous mettre en route et à suivre le Christ dans la pratique de chaque jour. De nos pensées et de nos mots, de nos gestes, de nos méditations, de nos silences, monte le cri des hommes et la détresse et la bonté. Et aussi, le murmure des voix qu'on oublie un peu trop facilement parce qu'elles n'ont pas le timbre de la gloire. Et puis, quand la joie des commencements s'effrite sur la route, quand le courage nous manque pour des marches nouvelles, Seigneur Dieu, fais-nous espérer et fais-nous aller aussi loin qu'entraîne ton amour. Élargis l'espace de nos vies pour être tes témoins. Élargis notre prière aux dimensions du monde, de l'univers. Nous te demandons d'avoir un cœur assez désintéressé de lui-même pour que beaucoup puissent y trouver leur place. Et pour cela, nous faisons nôtre la prière que Jésus a enseignée à ses disciples en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous emporte pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du malheur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. » Frères et sœurs, donnons encore un peu plus d'ampleur, mais aussi de couleur à notre prière, avec le cantique « Bienheureux qui t'aime ». Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Frères et sœurs, recevons maintenant la bénédiction au nom même de Dieu. Frères et sœurs, le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen. Accomplissons maintenant notre culte avec le cantique « L'Éternel est ma seule lumière ». Nous chanterons les quatre strophes de ce cantique.